Europe Midi. Romain Desarbres.
Bonjour à tous, midi et demi. Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. L'agression de trop pour les médecins d'SOS Médecins à Toulon. Ils font la grève des visites à domicile jusqu'à demain matin 8h. On ira sur place et on sera en direct avec le président d'SOS Médecins Toulon Provence Méditerranée. La présidence française du Conseil de l'Union Européenne pour 6 mois. Emmanuel Macron a pris la parole ce matin au Parlement européen de Strasbourg. Il dit vouloir lutter contre l'immigration illégale. On ira sur place retrouver Alexandre Chauveau. Record du nombre de cas de Covid, record du nombre d'enfants hospitalisés en France. Voit-on vraiment arriver le bout du tunnel de l'épidémie de Covid? Je poserai la question au professeur Philippe Amouyel qui sera en direct avec nous. On va parler également dans Europe Midi de la guerre du Gruyère. Suisse et Français alliés contre les Américains, vous allez voir. Et puis la tendance météo, Anissa Haddadi, avec un ciel bien plus gris aujourd'hui.
Oui, c'est beaucoup moins bien que ces derniers jours. Aujourd'hui, on a vraiment une journée de transition avec une perturbation qui nous arrive du nord-ouest. Donc, des averses, des nuages et très peu de soleil, c'est le programme de cet après-midi.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Europe 1. Comment peut-on s'en prendre à un médecin qui soigne des gens à domicile, a fortiori la nuit? C'est ce qui est arrivé pourtant à un médecin de SOS Médecins dans un quartier de Toulon, dans la nuit de lundi à mardi. Il a été agressé, frappé, choqué, bien sûr, il l'est. Et par solidarité, ses collègues font la grève des visites à domicile jusqu'à demain matin, 8h. Frédéric Michel, correspondant Europe 1 dans la région. Frédéric, déjà, racontez-nous ce qui s'est passé.
Les faits, Romain, se sont produits dans la nuit de lundi à mardi. Il était environ 2h30 du matin dans un quartier ordinaire, populaire de l'aire toulonnaise. D'ailleurs, le médecin agressé raconte que c'est un endroit tranquille et qu'il n'avait pas de raison particulière de se méfier. Il avait bien vu un homme nerveux dans la rue en arrivant pour sa consultation. Le docteur avait été appelé pour se rendre auprès d'un nourrisson et c'est en remontant après sa visite dans son véhicule, une grosse berline allemande, qu'il a été projeté à terre et plaqué au sol par l'individu qu'il avait remarqué à son arrivée. Quand il s'est assis au volant de sa voiture, il n'a pas eu le temps de verrouiller les portes. Une fois à terre, il a eu la présence d'esprit de jeter les clés du véhicule. Son agresseur a alors lâché prise pour récupérer le trousseau. Le médecin en a profité pour s'enfuir et prévenir la police. Le malfrat, lui, est parti avec le véhicule siglé SOS Médecin, le portable et surtout le matériel médical. La berline disposant d'un système de géolocalisation a été retrouvée quelques heures plus tard. Choqué mais indemne, le docteur n'a pas été visé, dit-il, en sa qualité de médecin. C'est le véhicule qui intéressait son agresseur.
Et on est en direct avec le docteur Gérald Dauphin, président d'SOS Médecins Toulon, Provence Méditerranée. Bonjour docteur, merci d'être avec nous dans Europe Midi. Donc, pour bien comprendre, jusqu'à demain, aucune visite à domicile d'SOS Médecins à Toulon.
Oui, bonjour. Nous avons décidé hier en Assemblée Générale Extraordinaire de suspendre toute activité. Jusqu'à demain matin, 8h, nous exerçons une forme de droit de retrait. C'est pas vraiment une grève, on n'a pas de revendication. On essaie d'attirer l'attention du public sur les difficultés d'exercer le métier de médecin et plus largement des professions médicales actuellement. On est victime de plus en plus souvent d'incivilité, de menaces, d'agressions, d'insultes,
Soit en direct quand on travaille. Racontez-nous justement votre quotidien.
Donc on est une cinquantaine de médecins à Toulon, on reçoit quotidiennement entre 600 et 700 appels. On en effectue entre 400 et 550, donc une grosse association, on a énormément de travail, on manque de médecins. Et ce genre d'événement ne facilite pas notre travail ni notre recrutement.
Et il y a souvent des agressions ?
Alors des agressions physiques comme celle-là, non. C'était, à ma connaissance, la première fois que ça arrive, mais des petits actes de vandalisme sur nos voitures. Des menaces sur Internet, sur les avis, des insultes au téléphone envers nos standardistes. Ça, c'est quotidien, oui. Mmh. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu l'agression qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été l'agression de trop.
Oui, c'est ça. Des patients agressifs parfois?
Oui, mais alors les patients agressifs, ça, on sait gérer, c'est un peu notre métier. On voit des patients qui ont des affections psychiatriques ou l'alcool ou qui souffrent de problèmes d'addiction, qui peuvent être plus ou moins agressifs. On arrive à gérer quand il s'agit de patients qui appellent pour des problèmes infectieux ou de la bobologie qui devient agressive, là c'est un peu plus difficile à gérer. Et quand c'est des gens qui commencent déjà à nous menacer en nous appelant pour qu'on vienne vite ou parce qu'ils ont attendu trop longtemps ou peu importe les raisons, là c'est pas notre ça sort un peu du cadre de notre travail, quoi.
Oui, c'est ça. Vous envoyez les pompiers ou le SAMU et avec des policiers. Il y a certains médecins qui se protègent.
Bah, jusqu'à présent, non.
Et maintenant?
Là, nous avons entamé une réflexion sur l'avenir et notamment le travail nocturne. Donc, on va essayer de rencontrer les autorités, l'ARS, voir un petit peu. On ne veut pas que ceci se reproduise.
Oui.
Mais c'est vraiment l'attention du public qu'on va attirer, hein, parce que les autorités locales sont conscientes du problème. On a reçu hier de nombreux soutiens, que ce soit de l'ARS, la préfecture, la police. La police a été très réactive. On n'a rien à reprocher aux autorités. C'est vraiment une ambiance générale et une tension, une agressivité latente dans la société. Je pense que c'est un problème de société, mais il faut qu'on puisse travailler de manière apaisée. Mais pas seulement nous, hein. C'est quotidien aussi aux urgences, c'est quotidien dans les SAMU. C'est pas normal.
Merci beaucoup, docteur.
On n'est pas là pour se faire ni menacer, non. Ni insulter, ni agresser.
Ça, c'est certain. Personne ne doit se faire agresser quand il va travailler. Déjà, il doit se faire agresser tout court, et encore moins quand il va travailler, et encore moins quand il va soigner des gens, notamment la nuit. Merci beaucoup, docteur Dauphin. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h36.
Europe Midi. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1.
Emmanuel Macron à la tribune du Parlement européen. La France préside pour 6 mois le Conseil de l'Union européenne. Le président de la République pourrait être tenté de profiter de cette situation pour sa probable future campagne présidentielle. Alexandre Chauveau sur place avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Emmanuel Macron a parlé de thèmes européens qui peuvent être déclinés dans un programme pour la France, hein.
Oui, alors le chef de l'État n'est pour l'instant pas trop entré dans le détail de tous les sujets. Il le fera au moment de la séance de questions-réponses avec les eurodéputés. Il a donc présenté les grandes orientations qu'il souhaite donner à sa présidence. Mais son discours doit forcément être analysé à la lumière de sa très probable future candidature. Et Emmanuel Macron ne s'est pas gêné pour envoyer des signaux, comme lorsqu'il alerte sur le danger du non-respect de l'État de droit.
L'État de droit est notre trésor. Et il s'agit partout de reconvaincre les peuples qui s'en sont éloignés. Et il s'agit partout, avec beaucoup de respect et d'esprit de dialogue, de venir convaincre à nouveau.
Emmanuel Macron a sans surprise défendu une Europe puissance, déjà au cœur de sa campagne en 2017. Le président va même jusqu'à parler d'évidence européenne.
Je suis né en 1977 et ma jeunesse fut celle de l'évidence européenne. Nos générations ont aujourd'hui à refonder notre Europe pour faire face à ces promesses de démocratie vivante, de progrès et de paix. Nous avons à retrouver le sens de l'unité, le goût du temps long, au fond la nécessité de l'audace. Ni le retour au nationalisme, ni la dissolution de nos identités ne seront les réponses à ce monde qui advient.
Alors au-delà de son discours, c'est l'exercice de questions-réponses avec les députés qui sera observé de près. Parmi les élus, plusieurs Français devraient en effet prendre la parole. François-Xavier Bellamy des Républicains, Jordan Bardella pour le Rassemblement National et même Yannick Jadot, eurodéputé écologiste et surtout candidat à l'élection suprême.
Alexandre Chauveau, en direct de Strasbourg, au Parlement européen de Strasbourg. Merci beaucoup Alexandre. La politique et la présidentielle et la fin de l'aventure pour Arnaud Montebourg qui annonce ce matin qu'il retire sa candidature à la présidentielle. Pas de consigne de vote. Il demande à ses soutiens de voter pour personne. Il ne soutient personne. Il explique tout cela dans une vidéo. Écoutez.
J'ai engagé une franche discussion avec tous les candidats appartenant à ma famille politique. Mais aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords. J'en ai tiré la conclusion que mes idées étaient certainement devenues étrangères à ma propre famille politique. Le moment est donc venu pour moi, en homme libre, de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. Pendant ces 4 mois de campagne, j'ai défendu des propositions originales, innovantes, volontaristes. Elles n'ont malheureusement pas été entendues. C'est pourquoi j'ai décidé de ne soutenir aucun candidat.
Voilà, Arnaud Montebourg qui ne soutient aucun candidat et qui retire donc sa candidature. 12h39, ce qui frappe, c'est ce chiffre. 552 enfants hospitalisés pour des Covid en France, dont 91 en soins intensifs. On parle de l'épidémie de Covid avec vous, professeur Amouyel. Bonjour, professeur.
Bonjour.
professeur de santé publique au CHU de Lille. Il y a beaucoup de choses à voir avec vous. On va commencer donc par cette situation. Le nombre d'enfants hospitalisés n'a jamais été aussi important en France. 552 petits de moins de 10 ans à l'hôpital, dont 91 en réanimation. C'est un record, c'est beaucoup. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Dites-nous.
Oui, alors en effet, c'est beaucoup, dans la mesure où on a un taux d'infection extrêmement important. Excusez-moi, j'ai un écho, j'arrive pas à m'entendre.
Ah, il y a un problème, oui. Y a un problème technique, vous vous entendez en écho. Est-ce que le problème est réglé ou est-ce qu'il continue là ? Non, il y a un petit souci technique. Il y a un petit souci technique. Moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute la publicité, hein, voilà. Et puis ensuite, on va retrouver le professeur Amouyel et on aura normalement réglé le problème technique. Voilà, on va parler de l'épidémie de Covid, où en est-on vraiment avec le professeur Amouyel. À tout de suite, restez bien avec nous.
Europe Midi.
12h43, avant de faire un point sur l'épidémie de Covid, on va parler de cette première en France. Je voulais qu'on en parle dans Europe Midi. Un professionnel de l'immobilier va créer un lotissement qu'il destine aux chrétiens. Vous avez bien entendu, destiné, mais pas réservé, hein, parce que ce serait totalement illégal. Océane Théard avec nous. Bonjour Océane.
Bonjour.
Vous êtes rendue sur place. Déjà, expliquez-nous ce projet, à quoi va-t-il ressembler ?
Alors, pour l'instant, le village n'est pas encore sorti de terre, hein. Ce n'est qu'un vaste champ en friche. Mais Damien Thomas, le cofondateur de l'entreprise Monasphère en charge du projet, s'imagine déjà les 17 maisons du futur Clos Saint-Gabriel.
Là, sur notre gauche, on a une première rangée de 3 maisons. Un peu plus loin, il y a encore une autre maison. Et un peu plus à droite, ce sera un jardin partagé, puis une halle. Comme dans les vieux villages où il y avait un lavoir ou une grande halle en dessous de laquelle les papilles jouent aux boules, c'est vraiment un lieu de convivialité. C'est un projet qui est proche des lieux spirituels chrétiens, mais ce n'est pas un projet qui est réservé aux chrétiens.
Car l'essentiel, c'est l'emplacement à un terrain vendu par l'influente communauté catholique de l'Emmanuel et situé à 1 km du sanctuaire de l'église Saint-Gilles. La spiritualité, c'est bien un des arguments de vente de Monasphère. Et 70 familles seraient déjà intéressées par le projet, parmi elles Clément et sa compagne.
Je suis catholique et je vais aussi à la messe. Après, c'est pas la raison pour laquelle je fais partie du projet. C'était en fait un plus que vraiment la raison pour laquelle on est venu. J'aime bien jouer aux jeux de société, à la pétanque, enfin ce qu'on veut. Et donc du coup, quand ils m'ont parlé du hall où on pouvait se retrouver pour animer des temps, ça me parle beaucoup.
Alors, Océane Théard, je le disais, vous êtes rendu sur place. Qu'est-ce qu'on en pense dans le bourg ?
Eh bien, le projet ne fait pas l'unanimité. La maire refuse de prendre parti, tandis que ses rivaux montent au créneau. Guy Jouteux, un conseiller municipal de l'opposition, craint une mainmise de la communauté de l'Emmanuel sur le village.
Les sympathisants possèdent énormément de maisons autour de l'église Saint-Gilles à l'île Bouchard et on sent qu'il y a une emprise. Donc là, avec ce lotissement qui se met en place, on accentue un peu ce côté communautaire.
Et la construction de ce futur hameau partagé devrait débuter cet été. Les premières familles sont attendues pour 2024.
Voilà, et le bourg où se trouve ce projet, où a lieu ce projet, c'est l'île Bouchard en Indre-et-Loire. Merci beaucoup Océane Théard, merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi. Allez, on a retrouver le professeur Philippe Amouyel. Professeur, est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends parfaitement.
Formidable. Alors, je voulais qu'on parle de ce chiffre qui frappe. Je le disais il y a un instant, 552 enfants hospitalisés pour des Covid en France, dont 91 en soins intensifs. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette situation ? C'est un record, il n'y en a jamais eu autant. Comment vous l'expliquez ?
Et oui, et on a observé ça également aux États-Unis, en particulier dans l'État de New York, où on a vu multiplier par 4 le nombre des hospitalisations pour les enfants. C'est lié à la très forte transmissibilité du variant Omicron qui augmente le nombre de cas potentiels et à la pénétration importante en particulier dans les tranches d'âge qui vont de 6 à 10 ans et de 11 à 14 ans, hein, puisqu'aujourd'hui elles sont aux alentours de 5,6% des enfants qui sont contaminés. Donc même s'il y a pas beaucoup habituellement de cas, mais c'est toujours trop. Là, avec cette augmentation massive du nombre des contaminés, on assiste parallèlement à un triplement des hospitalisations et des cas graves en réanimation.
Oui, c'est ça. 464 000 cas en 24 heures. C'est un autre record de nombre de Covid. On est sur le haut de la vague, là ?
Très probablement. Alors, il faut savoir que cette vague, ce qui est important, c'est de voir sa tendance et de voir ses conséquences sur l'hospitalisation et la réanimation. Donc, aujourd'hui, sur sa tendance, elle est encore légèrement à la hausse, mais elle monte moins vite. Mais on est à des chiffres qui sont extrêmement élevés. Ça, on s'y attendait, puisqu'on teste. On n'a pas l'ensemble des gens et 400 000 ou 500 000, c'est probablement plus dans la population qui circule avec tous les gens asymptomatiques. En revanche, là où c'est un peu plus intéressant, c'est qu'on commence à voir une diminution au niveau, par exemple, des réanimations. Alors, probablement, les sujets qui ont été contaminés par le Delta. C'est pour ça qu'il faut encore rester prudent, attendre les 15 premiers jours pour voir l'impact de cette énorme vague sur les réanimations. Normalement, avec la moindre gravité de l'Omicron, ça devrait passer, mais il faut quand même attendre pour en être bien sûr.
Les tests, on en réalise à tour de bras en France. Ça nous coûte un pognon de dingue, comme dirait le président de la République. Entre 1 et 2 milliards d'euros chaque mois. Est-ce que c'est vraiment utile ?
Les tests sont faits, un, pour poser des diagnostics, et deux, pour identifier des gens qui seraient potentiellement transmetteurs. Alors c'est normal qu'on les augmente, étant donné la grande contagiosité de l'Omicron. Mais imaginons qu'on ne le fasse pas, on aurait beaucoup plus de gens qui se promèneraient en éliminant du virus parce qu'ils sont cas contact ou qu'ils sont cas sans le savoir. Et à ce moment-là, l'épidémie pourrait même prendre des tours probablement plus importants.
Professeur Amouyel, j'ai une dernière question à vous poser. Bon, le nombre de personnes en réanimation reste stable, autour de 4000, mais plutôt en dessous. Quel est l'état des hôpitaux actuellement ? Je voyais qu'on commençait à reprogrammer des opérations qui avaient été déprogrammées à cause du Covid.
Oui, tout à fait, mais ça dépend des régions. Il y a certaines régions qui sont très touchées, comme l'Île-de-France, par exemple, ou le sud de la France. Mais dans une région comme le Nord, par exemple, là, on est en effet en train de reprogrammer. La tension reste à peu près stable. On est, par exemple, à 65% de charge, alors que le reste de la France est à 75%. Donc, de ce côté-là, conditionnellement au nombre de cas que l'on observe, qui est absolument gigantesque, on sent là l'impact de la vaccination et de la moins grande gravité d'Omicron sur les populations, et c'est un bon signe.
Merci beaucoup, professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h48. C'est un problème que connaissent de nombreuses grandes villes ces dernières années. Moins de logements sur le marché, à cause de quoi ? À cause des locations courte durée. À Bordeaux, c'est une ville où la pression foncière est très forte, eh bien la municipalité a voulu contrer ce phénomène. 3 ans plus tard, Stéphane Place, vous êtes avec nous. La pression sur les contrevenants, l'application stricte des règles, eh bien ça marche et ça porte ses fruits. Expliquez-nous, Stéphane.
En fait, c'est en 2018, Romain, que la mairie bordelaise a décidé de serrer la vis face à un marché immobilier local, vous le disiez, en tension, beaucoup de demandes, de moins en moins d'offres, de plus en plus chères et parallèlement, plus de 8000 locations de meublés proposées aux visiteurs, aux touristes de passage via les fameuses plateformes comme Airbnb. Eh bien aujourd'hui, 4000 de ces logements sont de retour sur le marché classique de la location, dit l'adjoint au maire de Bordeaux, Stéphane Pfeiffer, grâce d'abord aux nouvelles règles municipales assez contraignantes.
Lorsque vous voulez mettre en location votre logement sur une plateforme comme Airbnb, plus de 120 jours par an, si c'est votre résidence principale ou si vous voulez mettre votre résidence secondaire, vous devez compenser, c'est-à-dire que vous devez créer un nouveau logement de la même taille dans le même quartier. La deuxième raison qui explique la baisse qu'on connaît aujourd'hui, c'est le Covid. Baisse de la fréquentation touristique, moins de locations sur ces plateformes. Du coup, des propriétaires ne s'y retrouvent plus parce qu'ils n'ont plus ces rentrées financières, donc ils remettent leurs biens sur le marché de la location. Et troisième élément, depuis la mi-2021, il y a un deal entre l'État, certaines communes dont Bordeaux et les plateformes. Chaque annonceur a un numéro unique qui lui correspond et les plateformes doivent nous communiquer chaque année le nombre de locations de chacun de ces numéros.
D'où des contrôles plus efficaces. D'ailleurs, là, ces dernières semaines à Bordeaux, 3 affaires ont été jugées et les propriétaires condamnés à payer des amendes allant de 5 000 à 10 000 euros.
Stéphane Place en direct de Bordeaux. Merci beaucoup Stéphane. Il est 12h50. Restez bien avec nous. On était à Bordeaux il y a quelques instants. On va partir dans le Doubs retrouver Jean-Luc Boujon pour la guerre du Gruyère entre les Suisses et les Français d'un côté et les Américains de l'autre. Restez bien sur Europe 1 dans Europe Midi. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h53, vous êtes peut-être à table et vous en êtes peut-être au fromage. Avec quoi sur la table? Du gruyère, le gruyère qui est au cœur d'une bataille sans merci. Sachez qu'en ce moment, les producteurs français et suisses de gruyère se battent pour qu'aux États-Unis, l'appellation gruyère leur soit réservée. Un juge fédéral américain en a pourtant décidé autrement et les producteurs français et suisses vont faire appel. Et pour Europe 1, Jean-Luc Boujon s'est rendu auprès de ceux qui défendent le gruyère français à Poligny, dans le Doubs.
En Franche-Comté, comme en Suisse voisine, le gruyère est un fromage ancestral fabriqué depuis le Moyen-Âge. Le gruyère français, ce sont de larges meules, une pâte souple avec des petits trous, et surtout un goût fruité obtenu après un affinage en cave de plusieurs mois. Rien à voir avec le soi-disant gruyère américain, explique Éric Chevalier de la coopérative Monts et Terroirs de Poligny.
C'est sûr qu'il n'y a pas photo. Les arômes sont complètement différents, on n'est pas du tout sur les notes florales qu'on peut avoir ici, et puis les textures sont beaucoup plus raides, dures, on n'a pas la souplesse, longue curiosité qu'on a sur notre gruyère français. C'est un patrimoine qui est attaché à un territoire pour faire vivre les gens de ce secteur et quelque part on est en train de bafouer ce qui a été construit pour cette filière.
Et pour obtenir un vrai gruyère, il y a un cahier des charges très strict à respecter, explique Aurélien Drouard, producteur de lait en Haute-Saône.
Les vaches ont l'obligation de pâturer, donc de manger l'herbe en extérieur. On a une alimentation non OGM, on est limité à 5 races de vaches. Aujourd'hui, aux États-Unis, j'ai pas l'impression qu'on puisse avoir ce label de qualité. On souhaite pas que n'importe quel produit puisse être produit n'importe comment.
C'est pourquoi les producteurs de gruyère demandent à l'Europe de monter au créneau afin de faire appel de la décision américaine. Poligny, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Allez, on parle de l'Open d'Australie. Décidément, cet Open d'Australie est un Open complètement fou. Après l'expulsion de Novak Djokovic, non vacciné, encore une scène frappante. Une joueuse, une jeune joueuse française, a dû quitter le terrain de tennis en fauteuil roulant. Elle n'arrivait même plus à marcher. Jean-François Pérez avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Racontez-nous ce qui lui est arrivé.
C'est une belle et triste histoire de sport, celle d'une joueuse qui est allée au bout de son effort, de sa souffrance. Elle s'appelle Harmonie Tan, elle a 24 ans, née à Paris, 107e joueuse mondiale. Elle était opposée ce matin pour son deuxième tour à une référence du circuit, Elina Svitolina, qui n'est autre que Madame Gaëlle Monfils à la ville. L'Ukrainienne domine, la Française sauve une balle de match, elle égalise à un set partout. Hélas, en début de troisième manche, elle se blesse au mollet, la douleur est de plus en plus forte, mais elle ne veut pas abandonner et c'est l'arbitre de chaise en personne qui lui prodigue alors ce conseil. Vous risquez d'aggraver votre blessure si vous continuez, dit-il. Alors la Française se rend à l'évidence. Le match s'arrête, 6-3, 5-7, 6-1, 5-1 pour Svitolina. Harmonie Tan regagne sa chaise, mais elle ne peut plus se lever. La douleur est trop forte. Alors elle sort du terrain sur une chaise roulante, vous l'avez dit, applaudie par les spectateurs. Elle ne se rendra même pas en conférence de presse dans la foulée. C'est la fin d'une belle histoire australienne pour cette joueuse qui avait failli rater le tournoi. Elle avait contracté le Covid. Fin décembre, oui. Elle était revenue juste à temps. Elle jouait pour la première fois de sa carrière à Melbourne. Elle s'en souviendra évidemment sans doute très longtemps. Juste un petit mot pour vous dire que Gaël Monfils qu'on attend, c'est le Français qu'on attend à Melbourne. Il mène 2-7 à 0. Il déroule face au Kazakh Bublik. 6-1, 6-0.
Jean-François Pérez, merci beaucoup Jean-François. Le temps tout de suite avec Anissa Haddadi cet après-midi. C'est moins bien que ces derniers jours, Anissa.
Oui, beaucoup moins bien. Alors l'anticyclone Romain qui nous a protégés pendant plusieurs jours est en train de se décaler vers l'Irlande. Du coup, depuis ce matin, nous avons une petite perturbation. Alors pas très active certes, mais une perturbation qui change l'ambiance. Donc cet après-midi, le ciel est très couvert sur presque tout le pays avec des petites averses le long des côtes de la Manche cet après-midi entre la Bretagne et les Hauts-de-France en passant par le Cotentin. Partout ailleurs, on a un temps plus sec mais très gris avec des petits flocons qui virevoltent dans le ciel du côté du centre-est. En fait, le soleil va se montrer uniquement en montagne, sur les Alpes et les Pyrénées, même au bord de la Méditerranée. Le ciel va se couvrir avec des entrées maritimes en Provence et un petit peu d'humidité sur le littoral varois. Le vent se lève aussi dans le sud, sur le Roussillon, avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Les températures, elles sont dans certaines régions en dessous des moyennes de saison. 2 degrés à Aurillac et Belfort, 3 à Rodez et Saint-Étienne, 5 pour Lyon et Limoges, 6 à Strasbourg, 8 à Paris, 10 degrés à Bordeaux et Lorient, 13 à Marseille et 14 pour Bastia.
Merci beaucoup Anissa, il est 12h57, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi dans un instant. C'est La France Bouge, très bon après-midi sur Europe 1.